Les rencontres du Lysignol 8 du vendredi 8 juin 2018. Science-fiction et anarchisme, comme si nous étions déjà libres. Quelques extraits sonores pour alimenter les discussions. Le premier, au cours du Festival de la CNT 8 au 10 mai 2015 à Paris, rencontre et débat science-fiction et politique, une élocution d'Alain Damasio. En deux, extrait du film V pour Vendetta, réalisé par James McTeague, sorti en 2006 et adapté par les Wachowski du comic V pour Vendetta d'Alan Moore et David Lloyd, publié par Vertigo, une filiale de DC Comics. L'action se situe à Londres, dans une société dystopique où un combattant de la liberté se faisant appeler V cherche à mettre en place un changement politique et social en menant une violente vendetta personnelle contre le gouvernement fasciste en place. En 3, entretien avec Norman Spinrad, journaliste, écrivain de science-fiction et ami de Frank Herbert, à propos de Dune, roman de science-fiction écrit par l'auteur américain Frank Herbert, publié aux États-Unis en 1965, surtitrage en français. En 4, extrait du film Matrix, un cyberfilm de science-fiction écrit et réalisé par Andy et Larry Wachowski avant leur transition et sorti en 1999. Il dépeint un futur dystopique dans lequel la réalité perçue par la plupart des humains est en fait une simulation virtuelle appelée la Matrice, créée par des machines douées d'intelligence afin de soumettre la population humaine et de se servir de la chaleur et de l'activité électrique de leur corps comme source d'énergie.
Ce que je voulais vous dire, c'est venir parler effectivement de science-fiction et politique. Commencer par dire que par définition, pour moi, la science-fiction est le médium majeur et fondamental du traitement politique en littérature. Voilà, les gens se demandent parfois, en disant, mais la science-fiction, c'est quoi? C'est des robots, c'est des soucoupes volantes, c'est du space opéra. Quel rapport avec la politique? Le rapport, il est immédiat, il est direct. Il faut savoir que dans science-fiction, il y a science, mais dans science, il y a science humaine et science dure. Et qu'en France, notamment, et à Heyerdahl, il y en a un extraordinaire exemple, mais comme Pierre Bordage, comme Serge Lehmann, comme Léon Henry, comme moi, on fait de la science-fiction de sciences humaines. C'est-à-dire qu'on parle généralement de la philosophie, on parle de la sociologie, on parle de la psychologie. Et ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment des paradigmes technologiques qui émergent aujourd'hui dans notre société modifient, métamorphosent, altèrent complètement notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux autres, et notre rapport au monde plus globalement. Et en ce moment, je trouve qu'on a des phénomènes qui sont pour nous un âge d'or, c'est-à-dire qu'avec l'apparition des réseaux, avec l'apparition d'Internet en gros en 95, et avec l'apparition conjointe de cette espèce d'objet nomade totalitaire qu'on appelle le smartphone, c'est-à-dire d'un objet qu'on porte sur nous, qui est censé être l'incarnation de la mobilité et qui est un parfait outil de traquage et de géolocalisation, on est dans un monde où la façon dont on drague, la façon dont on devient ami, la façon dont on consomme, la façon dont on se divertit, la façon dont on se cultive, a totalement changé, a totalement été révolutionné par l'arrivée d'Internet et des réseaux. Donc ce poids du paradigme technologique, le fait que, voilà, ce qu'on appelle un mot pompeux, l'anthropotechnique dans laquelle on vit, c'est-à-dire ce couplage entre l'homme et la technique, a parfaitement changé. Et dans ce cadre-là, la science-fiction, les auteurs de science-fiction ont pour moi une responsabilité énorme, ont un rôle énorme à jouer pour essayer de décrypter ce qui se passe, pour essayer de le rendre visible et pour essayer d'en extraire les enjeux sur un plan politique, sociologique, psychologique, humain et en termes aussi de vitalité. Là, on l'a vu dans le texte qui vient de jouer.
Et du coup, je vais te poser une question parce que tu parles beaucoup de philosophes, etc. Pourquoi avoir choisi le roman de science-fiction pour exprimer tes idées? Est-ce que tu as des liens avec des auteurs de science-fiction ou un lien avec cette littérature? Pourquoi avoir choisi ce médium-là et pas d'avoir écrit des livres de politique ou des essais ou de la philosophie?
Ouais, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, j'aurais pu rentrer dans l'essai, dans l'argumentatif. Moi, je crois que la science-fiction a au moins trois capacités qui lui sont propres. C'est pas du tout lié à ma culture science-fiction. Je lisais pas de science-fiction, j'en ai encore très peu. C'est pas par la culture de science-fiction que j'y suis venu, c'est vraiment par un instinct. La première chose, c'est que la science-fiction permet de décaler ce qui est familier, te permet de décaler le quotidien. C'est-à-dire que ça vous permet de poser des univers qui vont vous défamiliariser, qui vont vous amener dans une forme d'étrangeté. Et ce léger décalage, ce léger déport à droite ou à gauche fait que tout d'un coup, votre quotidien, qui vous est très familier, vous apparaît sous un angle que vous n'avez jamais vu. C'est comme si vous décaliez comme ça légèrement. Et alors, généralement, on décale dans le futur, mais parfois, ce n'est pas nécessaire. Parfois, on décale dans le passé, hein, c'est le cas de l'Uchronie. Parfois, on est en temporalité équivalente, mais on décale simplement les plans de réalité. Hein, c'est le cas, par exemple, chez Kadic. Donc, cette faculté à opérer un décalage, ça permet de restituer les sciences d'un monde qui est trop familier pour qu'on le voit. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, c'est terrible, mais on est né, moi je suis né dans un monde totalement capitaliste. Ça m'est extrêmement difficile d'écrire comme Herbert Marcuse, par exemple, ou même comme Deleuze et Guattari. C'est-à-dire des gens qui ont vu apparaître la société de consommation dans son explosion massive à partir des années 70. Eux, ils ont vécu l'avant et l'après de ce capitalisme de consommation massif. Quoi. Donc, ils ont vu la science, ils ont vu l'émergence de ça. Nous, on le voit pas, on est né dedans. Quoi. On vit à l'intérieur de ça. Moi, je vois plus les reliefs. Pour moi, c'est normal d'être bombardé de publicité à raison de 3000 contacts publicitaires par jour. C'est normal, ça me fait chier, mais j'ai toujours vécu là-dedans. C'est normal d'avoir une télé où on coupe les films. Voilà, en tout cas, c'est dans notre sang. On n'a plus ce décalage. On est en société de spectacle, on ne peut plus voir cette société de spectacle émerger comme Guy Debord l'a vu. Voilà. Donc, il y a ce côté-là. Et la SF permet de retrouver ça. Voilà, permet de retrouver ce décalage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la science-fiction a un rôle d'anticipation, c'est-à-dire qu'elle a un rôle d'alerte. C'est-à-dire qu'on est parfois des Cassandres, parfois on est simplement des devins ou des visionnaires, ou on croit l'être. C'est-à-dire qu'on a une faculté à extrapoler certaines tendances pas encore complètement émergées du présent, de les pousser à fond, de les extrémiser, de les radicaliser, de dire « attention, voilà ce qui arrive ». Par exemple, moi j'avais poussé à bloc un système qui est le système d'évaluation, qu'on voit partout maintenant, à la fois dans les services publics, privés. On évalue toujours tout le monde, on évalue les politiques, on quantifie absolument toutes les actions, on fixe des objectifs, on demande des résultats, etc. Tous les modes de management sont fondés là-dessus, maintenant, public-privé confondu. Et j'ai radicalisé complètement ça dans la zone du devoir. C'est-à-dire que j'ai créé un système social qui s'appelle le clastre, où chaque individu est classé. Et selon votre classement, vous avez un ensemble de lettres qui vous définit. C'est-à-dire que vous êtes noté par vos supérieurs hiérarchiques dans votre travail, par vos équivalents hiérarchiques, par vos subordonnés. Vous êtes noté par votre famille, par vos fils, vos filles, vous êtes noté par votre femme, vous êtes noté par vos voisins, etc. C'est-à-dire que c'est un système général et horizontal de notation et d'évaluation dans lequel vous êtes inséré et qui détermine quelle est votre place dans le champ social. Si vous êtes président, vous êtes A, si vous êtes Premier ministre, vous êtes B, etc. Jusqu'à arriver aux 5 lettrés pour ceux qui sont mal placés. Et ce système d'évaluation croisée, soi-disant démocratique, soi-disant horizontal, parce que tout le monde note tout le monde dans le classe, hein, dans la zone du dehors, ça, c'est typiquement un effet de radicalisation, d'extrémisation, de phénomènes ou de tendances qu'on a dans la société. Et ça, la SF le permet. Et quand vous mettez en place un système comme ça, tout d'un coup, les gens se disent « Mais bon Dieu, mais finalement, c'est ce que je vis au boulot, ça. Mais merde, c'est ce qu'on vit dans le service public, là, à Mietta de Paris, etc. » Tu vois. Donc, voilà, la SF permet ça, permet ces phénomènes-là. Genre. C'est ce côté-là. Donc, anticipation par extrémisation, c'est la SF. Et anticipation de résistance, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire que j'essaie d'anticiper les mouvements et de me dire comment on va pouvoir résister à ça, comment on va pouvoir déjouer ça, comment on va pouvoir déjouer les nouveaux pouvoirs qui arrivent. Voilà, ça c'est des choses vraiment propres à la science-fiction. Et juste un truc aussi à dire aujourd'hui, c'est que pendant très longtemps, la science-fiction a anticipé le futur. Aujourd'hui, on essaie juste de décrypter le présent. Et ça, tous les auteurs de SF quasiment en France vous le diront. Il y a tellement de choses qui se passent au niveau technologique, il y a tellement de phénomènes conjoints en même temps, que déjà on essaye de schématiser le présent, de cartographier le présent, et de comprendre ce qui se passe. On n'est plus, je veux dire, d'ailleurs, la plupart des livres de SF, on fait de la prévision à 10 ans, 5 ans, pas plus. Ça ne sert à rien. Déjà, essayons de comprendre ce qui se passe au niveau technologique et au niveau... Il y a beaucoup trop de dimensions technologiques à la fois et en même temps qui changent beaucoup trop de choses pour qu'on ait besoin d'anticiper. Il faut qu'on analyse le présent. Et du coup, on a un rôle politique encore plus grand parce qu'on est vraiment ancré sur le présent. Voilà, j'ai oublié la troisième chose que je voulais dire sur SF, mais ça reviendra.
Et justement, à propos du choix, oui, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à lever la main.
J'ai une dernière chose extrêmement importante, mais c'est valable pour toute la littérature. C'est pourquoi la science-fiction, et pourquoi pas un essai? Parce que on a cette ressource fondamentale du personnage. Voilà. On a l'incarnation émotionnelle de quelque chose. on a la mise en récit, on a la mise en affect, on a la mise en perspective d'une trajectoire humaine auquel on va s'identifier. Et ça, vous ne pouvez pas l'avoir dans un, évidemment, dans un essai, quoi. C'est votre capacité et c'est ce mécanisme identificatoire qu'a la littérature, qu'a le cinéma, qu'a le jeu vidéo. C'est-à-dire, vous, en tant qu'individu, tout d'un coup, vous ressentez de l'empathie pour un personnage ou pour un groupe de personnages. Vous vous mettez à leur place, vous habitez avec eux, vous vivez avec eux, vous souffrez avec eux, vous vainquez avec eux. Et bien ça, c'est la littérature qui le permet. Et ça amène quelque chose qui manque complètement dans la militance et qui est un gros problème de tous les groupes militants. Ça, vous pouvez en parler à tout le monde et je suis sûr qu'à la CNT, vous avez le problème. C'est que vous faites des tracts et des tracts et des tracts et même des films documentaires super bien rationnels, super bien faits et tout. Et vous dites, on comprend pas, putain, les gens se conscientisent pas, putain, les gens sont pas sensibilisés, putain, les gens bougent pas. Et pourquoi les gens bougent pas, tu vois, et on est là à s'énerver, à faire des discussions, hein, à des heures et des heures, à se dire, mais pourquoi les gens réagissent pas, ils sont mous, la masse, machin, bon. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'on s'adresse à leur cerveau par des tracts qui sont des tracts argumentatifs, qui sont des tracts discursifs. On s'adresse à un registre, voilà. Et on espère déclencher des changements de vie, des changements d'action, des changements d'habitude et d'attitude à partir du seul vecteur conceptuel. La vérité, c'est que vous obtenez beaucoup plus de choses et des choses beaucoup plus immédiates et fortes si vous passez par l'affect, si vous passez par le désir, si vous activez les champs de désir, si vous rendez les choses désirables. Et ça, la littérature, c'est extraordinaire pour ça. Voilà. La littérature, bah oui, moi, la zone du dehors, j'espère, et les gens m'ont dit, les gens qui, après avoir lu la zone, ont eu envie de se battre, de se défoncer, de militer, etc., parce qu'on mettait en place dans la zone du dehors un groupe militant effectivement qui s'appelle La Volte et qui va au bout de sa révolution et qui crée des communautés dans le dehors et qui se bat et qui continue à se battre. Et simplement, voilà, j'essaie d'ouvrir un horizon du désirable, donner envie, c'était la phrase de Foucault magnifique en 75 déjà, il faut rendre à nouveau la révolution désirable, tu vois, il le dit déjà en 75, il sent déjà que c'est vraiment un problème, et ben oui, on doit activer ces champs d'affect, de désir, et, voilà. Donc la littérature peut affecter les gens d'une envie, d'un désir, d'une joie, et d'une ouverture que ne permet pas le discursif pur qu'on a dans les tracts, parce que voilà, c'est pareil sur les comportements écologiques, vous pouvez expliquer rationnellement pourquoi ouvrir le robinet, ça gaspille trop d'eau et tout ce que vous voulez, ok, c'est rationnel, mais il faut trouver comment mettre ça avec des personnages dans une perspective, dans un récit, dans une histoire, dans une narration, et là, vous bougerez beaucoup plus les gens, et enfin, il me semble, voilà, en tout cas, moi, ça me rend beaucoup plus... ça met beaucoup plus de pression parce que je me dis j'ai une vraie responsabilité parce que oui j'ai ce talent de pouvoir le faire donc il faut que je réussisse à le faire parce que on voit bien que les tracks ça marche pas, enfin en tout cas ça marche pas assez quoi.
Bonsoir Londres, permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes
équipes. Il est sur l'émetteur d'urgence.
J'aime, comme beaucoup d'entre vous, le confort du train-train quotidien, le sentiment de sécurité et la tranquillité que procure ce qui est familier et répétitif.
Bon Dieu.
Je les apprécie comme tout un chacun. Mais dans cet esprit de commémoration qui prévoit que les événements importants du passé, habituellement associés à la mort d'un individu ou à la fin de quelque horrible bataille sanguinaire, soient célébrés par de sympathiques congés, j'ai pensé que nous pourrions célébrer ce 5 novembre, jour hélas oublié, en consacrant un court instant de notre vie quotidienne à nous asseoir et à bavarder un peu. Il existe bien sûr des personnes qui ne veulent pas que nous parlions.
Laissez-moi réfléchir.
Je soupçonne qu'en ce moment même, des ordres sont envoyés dans des téléphones et que des hommes armés vont bientôt se mettre en route.
Les chancelliers, c'est clair.
Et merde.
Pourquoi? Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas?
C'est vous qui l'avez conçu, vous la vouliez indéréglable. Vous m'avez dit toutes les télés de Londres.
Cruauté et injustice, intolérance et oppression. Et là où auparavant vous aviez la liberté de faire des objections, de parler comme bon vous semblait, vous avez maintenant des censeurs et des systèmes de surveillance vous contraignant à la conformité.
Des caméras.
Et sollicitant.
Il nous faut des caméras.
Comment est-ce arrivé? Qui est à blâmer? Bien sûr, il y a ceux qui sont plus responsables que les autres et qui devront en rendre compte. Mais, encore dans un souci de vérité, si vous cherchez le coupable, regardez simplement dans un miroir. Je sais pourquoi vous l'avez fait. Je sais que vous aviez peur. Qui pourrait se vanter du contraire? Guerre, terreur, maladie. Une myriade de problèmes a contribué à perturber votre jugement et à vous priver de votre bon sens. La peur a pris ce qu'il y avait de meilleur en vous. Et dans votre panique, vous vous êtes tourné vers Adam Sutler, aujourd'hui chancelier. Il vous a promis de l'ordre, il vous a promis la paix. Tout ce qu'il a demandé en échange, c'est votre consentement silencieux et docile.
Inspecteur, ils vont entrer.
La nuit dernière, j'ai cherché à mettre fin à ce silence. La nuit dernière, j'ai détruit le Old Bailey pour rendre la mémoire à ce pays. Il y a plus de 400 ans, un grand citoyen a voulu ancrer à jamais le 5 novembre dans nos mémoires. Il espérait rappeler au monde qu'impartialité, justice et liberté sont plus que des mots. Ce sont des principes. Alors si vous n'avez rien vu, si vous ignorez toujours les crimes de ce gouvernement, je vous suggère de ne pas commémorer le 5 novembre. Mais si vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, si vous désirez ce que je désire, alors rangez-vous à mes côtés, dans un an à compter d'aujourd'hui, devant les grilles du Parlement, et ensemble, nous leur offrirons un 5 novembre gravé à jamais dans les mémoires.
Il y a une phrase dans Dune, je ne m'en souviens plus exactement, qui dit « Quand la religion et la politique voyagent dans le même chariot, celui-ci ne peut qu'aller au désastre. » Bien sûr, on s'en rend bien compte aujourd'hui. Et on l'a vu aussi du milieu du Moyen-Âge avec le christianisme. C'est de l'absolutisme quand la religion, le gouvernement, et l'économie sont intriquées. Et une grande partie de Dune porte sur cette question. La société n'y est pas du tout démocratique. Un jour, j'en parlais avec Frank Herbert, l'auteur. Frank venait de faire un très bon discours sur la démocratie. Nous étions un cocktail et je lui dis, c'était des années après Dune, avant que son fils reprenne la saga, je lui dis, Frank, comment après ce discours peux-tu continuer à écrire sur cette théocratie royaliste? Et il m'a répondu, j'avais prévu d'abolir la royauté à la fin, bien sûr il ne l'a jamais fait. C'est un livre assez compliqué, car vous n'êtes jamais vraiment sûr de ce que Frank aime ou déteste vraiment. Ce qui en fait de la grande littérature, c'est très ambigu. Paul est le héros à bien des égards, puis à la fin de la véritable histoire, avant les autres bouquins, Paul finit par devenir tout ce qu'il voulait éviter, et il ne peut s'en échapper. Est-ce un mal ou un bien? C'est très ambigu. Et c'est l'une des grandes qualités littéraires de ce roman. Dune est une saga spatiale tentaculaire qui se concentre sur la planète Arrakis, une planète désertique où l'on trouve une épice, le mélange, qui provoque une sorte d'extension de la conscience, ce qui en fait l'une des substances les plus recherchées dans l'univers. Ça fait de Dune une planète d'une extraordinaire importance stratégique, un peu comme une version galactique de l'Afghanistan. La vraie science-fiction, et science-fiction est un mauvais nom pour toute cette littérature, la littérature spéculative si vous voulez, ce qui importe quand vous en écrivez, et ça s'applique aussi au fantastique, c'est de créer une culture. Mais vous ne pouvez créer une culture avec sérieux sans prendre en compte les aspects politiques. Sinon, c'est comme une histoire d'amour sans sexe, comme un restaurant sans recette. Vous êtes obligé de vous y intéresser. Mais ce n'est pas comme si les auteurs de science-fiction essayaient de prédire l'avenir. Ou encore d'étayer des opinions politiques. Ils veulent juste montrer ce qui pourrait arriver. Il y a donc des dystopies, des utopies et des histoires qui navigue entre les deux. Par exemple, j'ai écrit « Rêve de fer », un livre antifasciste et antinazisme. J'ai aussi écrit « Bleu comme une orange » sur la chute du capitalisme et du communisme. C'est un livre anarchiste. Franck a écrit « La barrière Santa Rega », une histoire positive sur l'esprit de groupe. D'autres ont écrit sur ces sujets et c'était affreux. On s'intéresse aux possibilités. On ne cherche pas à prédire ou à inventer quelque chose d'autre. Parfois, la science-fiction essaye de promouvoir un point de vue politique. Si ce n'est pas fait avec subtilité, ça n'a aucune valeur. On invente une culture quand on écrit de la science-fiction ou même du fantastique, vous créez une culture qui n'existe pas. Et pour la création de cette culture, si vous voulez être sérieux et cohérent, vous devez vous occuper de l'aspect politique, que ça vous plaise ou non.
Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Hein ?
On pourrait dire ça.
Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néo ?
Non.
Et pourquoi ?
Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie.
Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle ?
De la matrice.
Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est ? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église, ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité.
Quelle vérité ?
Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Je ne t'offre que la vérité, rien de plus.